Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
L'Intégral Sport jusqu'à 20h avec Olivier Giraud, toujours membre de notre Dream Team. Dans un instant, l'Olympique Lyonnais qui démarre son championnat dans deux jours face à l'AC Ajaccio. Peter Bosch et Alexandre Lacazette étaient en conférence de presse aujourd'hui. Lacazette, nouveau capitaine de l'Olympique Lyonnais, supporter lyonnais. Le 32-16 est ouvert pour vos réactions et vos avis sur cette saison à venir pour l'OL. L'actualité rugby avec des jeunes tuiles pour le Racing 92 qui perd une de ses futures recrues, le Gallois Regan Gray. Blessé, on fera un tour d'horizon de l'actualité avec Wilfried Templier, notre commentateur. Le monde de la Formule 1 est décidément totalement fou. Alonso quitte Alpine, qui annonce son remplaçant, qui annonce ensuite dans la foulée qu'il ne veut pas piloter pour le constructeur français la saison prochaine. Un scénario dingue que l'on vous expliquera dans les détails tout à l'heure avec Hamza Rahmani. Et enfin, pour terminer cette heure, le Mercato Show, les dernières informations concernant les transferts. Il y a également, pour réagir, le hashtag RMC Live et l'appli Direct Studio pour vos messages. Vendredi, l'Olympique Lyonnais ouvrira la saison face à l'AC Ajaccio. Premier match donc avec de cette première journée de Ligue 1, 21h à suivre sur RMC. L'OL pas européen qui sort d'une saison très décevante, 8e, la formation de Peter Bosch se s'est attendue. Julian Bouvnov de la rédaction nous a rejoint. Salut Julian.
Salut Arnaud, salut Olivier, salut tout le monde.
Salut.
L'entraîneur de l'OL était donc en conférence de presse aujourd'hui avec Alexandre Lacazette, cette traditionnelle conférence de presse à deux jours d'une rencontre. Le technicien néerlandais qui a conservé son fauteuil malgré donc cette première saison décevante a été interrogé sur les objectifs de la saison et surtout sur ce qu'il fallait faire de mieux.
Ouais, alors sur toute la saison, il a pas vraiment donné d'objectif principal. On sait que il a pas vraiment dit s'il voulait finir sur le podium, troisième ou quatrième. Non, il a plutôt botté en touche quand on lui a posé la question. Et il voulait pas trop en parler. Il dit vraiment se concentrer que sur lui-même et sur son équipe. Par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'OL, ils doivent pas finir huitième comme la saison passée. Et ils doivent faire le plein dès le début de la saison. Et ça, Peter Bosz nous l'a bien fait comprendre. On le rappelle quand même, l'an dernier, l'OL avait dû attendre la quatrième journée avant de décrocher sa première victoire. C'était face à Nantes à la Beaujoire. Et avant ça, Lyon n'avait pris que 2 points sur 9 possibles face à Brest, Angers et Clermont. Ils avaient pris du retard dès le mois d'août. Et Peter Bosz redouble de vigilance cette saison. Il ne veut pas revivre la même chose. On l'écoute.
Ceux qui y a longtemps dans le football savaient que d'abord le début de championnat, il y a toujours des surprises. Quand tu regardes notre saison qu'on a eue la saison dernière, on a perdu beaucoup de points sur surtout les petits clubs. Donc, s'il te plaît, je veux les joueurs sont à 100% concentrés pour ces matchs-là parce qu'on sait c'est pas facile, surtout sur le papier, peut-être les équipements forts. Il faut jouer à 100%. Et notamment nous, on sait que c'était pas facile l'année passée, donc aucune raison pour être moins concentré de 100%. Les entraînements ouverts, c'était plein. Tu sens l'espoir des supporters aussi. Il y a personne qui veut encore une saison comme ça. Et d'abord moi, d'abord les joueurs. Donc on va tout faire pour faire mieux.
Peter Bosch, le coach de l'Olympique Lyonnais. Alors, tu comprends son discours de pas forcément mettre d'objectif, mais bon, quand on est l'Olympique Lyonnais, qu'on a raté une qualification européenne, ça veut dire qu'on aura des semaines, entre guillemets, un peu plus légères. En tout cas, il y aura qu'un match à jouer, ce sera la Ligue 1 tous les week-ends. On s'attend à ce que l'OL retrouve, allez, au moins la quatrième place de l'Europa League, si ce n'est le podium.
À mon avis, c'est ce qu'il vise, et c'est certain. L'OL sans Coupe d'Europe, c'est, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais c'était il y a très très longtemps. Mais c'est normal qu'il ait ce discours-là parce que la saison de l'OL, on parle souvent des objectifs et des débuts de saison, des préparations selon que tu sois en qualification pour la Ligue des Champions, selon ta place, et ben elle est différente. Et eux, ils ont un challenge qui est évident. Ils vont avoir beaucoup moins de matchs cette saison que les autres, donc il faut être prêt tout de suite, il faut prendre les points tout de suite parce qu'il va y avoir un moment clé dans la saison. C'est le moment où les équipes européennes vont énormément jouer et à ce moment-là, il faudra pour une équipe comme l'OL avoir déjà fait le plein et là, il pourrait être la surprise de la première partie de saison sur la fin de la première partie de saison parce que physiquement, eh ben, eux seraient en pleine montée de puissance et les équipes européennes un petit peu moins.
Alors c'était arrivé la saison Covid, puisque tu te rappelles de cet arrêt, l'Olympique Lyonnais n'avait pas joué de Coupe d'Europe, et sinon c'est 96, parce que c'est vrai que c'est culturel, on a l'habitude que l'Olympique Lyonnais dispute chaque année une Coupe d'Europe, on s'était dit, bon là l'arrêt Covid, on a arrêté le championnat à 10 journées de la fin, voilà il y a cette circonstance atténuante, ça nous surprend quand même de se dire qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe à Lyon.
Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, on parlait de Rennes tout à l'heure et de cette ambiance qu'il y a à Rennes, de ce club posé,
culture même,
culture. Et ben, dans les discours, le signe, tu vas certainement en parler tout à l'heure, de remettre la casette. On fait revenir des joueurs qui ont brillé à l'OL, mais pas des joueurs cramés, des joueurs encore en pleine possession de leurs moyens. Et ça, c'est un signal fort du retour à l'essence de ce qu'est l'OL.
Julien, tu as parlé du début de saison 2021-2022 raté de l'Olympique Lyonnais avec cette première victoire à la quatrième journée contre Brest. Comment Peter Bosch peut faire en sorte de réussir son début de saison avec l'OL? Parce que les points qui manquaient à la J38, faut pas chercher midi à 14h, c'était en début de saison l'année dernière.
Hein. Ouais, alors déjà pour le match face à Ajaccio vendredi, il va devoir se passer de Maxence Cacré, Jeffrey Nadélaïde et de Romain Fèvre, hein, tous absents, et aussi peut-être de Corentin Tolisso qui a repris avec le groupe aujourd'hui, mais qui sera peut-être encore un petit peu juste pour vendredi. Mais en tout cas, Peter Bosz va s'appuyer sur ses cadres, et notamment Alexandre Lacazette, pour qui il a une grande estime, puisque cette année, ce sera le capitaine de l'OL, devant Corentin Tolisso, Karl Toko Ekambi et Anthony Lopez. Un choix d'ailleurs qui s'est fait naturellement selon le coach lyonnais. On l'écoute.
Il viendra un très grand club, dans un très grand championnat. Ça va nous aider, parce que les joueurs qui n'ont pas cette expérience, et on a beaucoup, on a notamment beaucoup de jeunes, et beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué en étranger. Pour ça, il est aussi mon capitaine cette saison, parce que je lui demande aussi d'aider les joueurs jeunes. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire des choses comme il pense, et y voir. À mon avis, c'est aussi quelqu'un de naturel, d'un leader, sans crier ou sans faire des choses bizarres.
On parlait des relations entre coach et joueur. Là, c'est au beau fixe. Hein. Tu vois, le petit mot, il est mon capitaine, ça veut dire beaucoup de choses.
Ça veut dire la confiance.
Énormément de confiance. Oui.
Quasi aveugle, presque.
Oui, et il y a souvent dans les équipes, et on parle toujours de management, le manager, ça veut dire gérer, c'est la gestion. Et dans la gestion, le rapport entre les cadres et l'entraîneur et le manager, pas l'entraîneur et le manager, c'est souvent la clé de la réussite. Parce que c'est la clé de la réussite quand ça va moins bien. Quand tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais dans la gestion, si tu t'entends bien avec tes cadres, en général, tu peux relever les situations de crise parce qu'en fait, il y a de la confiance.
Alexandre Lacazette, capitaine, qui était aussi en conférence de presse. Alors c'est vrai qu'il est revenu, c'est un peu la tête de gondole de l'Olympique Lyonnais, avec Corentin Tolisso aussi, mais c'est vrai que Lacazette, ça marqué aussi les esprits, et en plus il reprend le brassard. Julien, il a des objectifs hein, assez élevés, il revient pas en Ligue 1 pour faire de la figuration, Lacazette.
Non, pas du tout, il est là vraiment pour apporter son expérience après son passage en Angleterre à Arsenal, où il était d'ailleurs aussi capitaine de temps en temps. Il compte surtout aider le collectif, parce que la victoire est plus importante, mais c'est quand même un numéro 9, même s'il veut faire profiter ses coéquipiers, ça reste un numéro 9, et donc forcément, il y pense quand même un petit peu au but. En tout cas, si les ambitions de l'OL sont à l'image des ambitions de Lacazette, ça ne peut que être positif. On va l'écouter.
Je ne suis pas non plus égoïste à penser qu'à mes buts, donc j'essaie toujours de faire en sorte que tout le monde soit heureux et que sur le terrain, on s'entende tous bien. Je suis là pour qu'on gagne, pour qu'on soit européen la semaine prochaine. Forcément, je pense que ça passera par mes prestations et par marquer des buts, mais comme j'ai déjà dit il y a quelques semaines, si je ne marque pas et qu'on est en Ligue des Champions, je signe direct. Il faut avoir de l'ambition dans la vie, des objectifs pour avancer, donc on va viser les 28 buts cette saison.
Lacazette, ses dernières saisons en Ligue 1, donc c'était 2016-2017, 28 buts. La saison d'avant, 21 buts. La saison d'avant, 27 buts. Quand même, il a plus le même âge, mais il est encore, tu le disais, en pleine possession de ses moyens. Alexandre Lacazette, âgé de 31 ans, ce qui globalement quand même
Non, t'es encore en pleine possession de tes moyens. Et puis surtout dans le style de jeu, Lacazette, c'est pas un jeu fait de course, c'est un jeu fait de placement, d'intelligence. Et ça, aujourd'hui, physiquement, il peut largement encore le faire comme il le faisait à l'époque quand il mettait 28 buts.
Là, ce retour de Lacazette, aussi Tolisso, on voit, alors il y a ce rachat qui est en cours avec un futur propriétaire américain, John Textor, mais quand on pense à ce qui s'est passé la saison dernière, ce fut tendu entre le terrain, les joueurs et le public, ça repart sur des basses scènes. Un supporter lyonnais, on va en avoir au 32-16. Hein. N'hésitez pas à nous appeler. Forcément, on se dit que ça part sur un bon pied.
Mais tu me dis, en fait, il faut commencer déjà avec des basses scènes. C'est vrai, très compliqué. On a parlé de Marseille tout à l'heure, hier et tout à l'heure. C'est très compliqué de partir avec un sac à dos déjà de 15 kilos. Ce que fait l'OL, c'est tout simplement la manière dont on prépare son club à redevenir ce qu'il était. L'OL à redevenir ce qu'il était. La problématique, c'est que t'as vu, hein, on fait club après club. Tout le monde se prépare à ça. Tout le monde a envie d'Europe. Tout le monde a envie de briller. Mais à la fin, il y aura automatiquement des frustrés. Et on sent vraiment que les points importants, c'est vraiment ces débuts de saison. Ne pas rater le début de saison. Parce que souvent, tu le traînes. Et l'OL, ça lui est arrivé. Hein, tu le traînes toute la saison.
Quand Sylvinho est parti.
T'arrives pas à rattraper derrière.
Grégory nous a appelé au 32-16, supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Grégory.
Salut
Grégory.
Est-ce que, voilà, comme le disait Olivier Giraud, tu sens que sur cette préparation, il n'y a pas ce fardeau, ce 5 de 15 kilos qu'il va falloir commencer à porter pour le début de saison et que tout ce qui se passe du côté du club que tu supportes, l'Olympique Lyonnais, va dans le bon sens pour toi?
Je trouve que les voyants sont plutôt au vert et je trouve qu'on s'est suffisamment planté la saison dernière dans les grandes longueurs pour qu'on ait vraiment pris le problème au sérieux. Je trouve que Aulas, Tronçon, Chéroux, ont vraiment essayé de résoudre le problème. Je pense qu'on s'est posé des questions sur le mode de fonctionnement à l'intérieur de l'équipe et que des gens comme Lacazette, Tuto et Issos font d'excellents relais de Peter Bosz sur le terrain, voire des pare-feu aussi, parce que je sais qu'ils sont un peu pris le bec avec Bosz pendant le match face à Feyenoord, je crois. Je pense que si les consignes sont pas très claires, Alex sera capable d'en faire part au coach.
Là, sur le recrutement, donc évidemment, Lacazette, Tolisso, mais le jeune Le Penant, Tagliafico.
Il est bon, hein. Je l'ai vu jouer face à l'Inter. Il a vraiment du ballon. Il a une belle vision. Il est technique. Voilà, Tagliafico, j'ai trouvé que c'était le meilleur latéral gauche qu'on ait eu depuis Mendy. Faut dire, la barre était pas trop haute.
Oula, il y a un gros buzz. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le métro.
C'est le métro?
Non, c'est pas le métro, c'est le TGV pour tout vous dire.
Il est en train de partir? C'est les vacances ou tu rentres?
Je rentre d'une partie des vacances pour repartir en vacances, donc tout va bien.
On va voir l'agence du chef de bord dans quelques instants. Bon, on peut quand même t'avoir 2 minutes, hein, parce qu'avant que ça parte les TGV, il y a toujours 2 minutes. Grégory, le recrutement pour toi, ça suffit parce qu'il n'y aura que la Ligue 1 à jouer et la Coupe de France, où il faut encore se renforcer, ou on attend éventuellement le mercato d'hiver?
Alors, moi, ce que je renforcerais volontiers, c'est je prendrais bien un défenseur central supplémentaire, tout en faisant partir un ou deux. Je pense que Boateng et Da Silva, on n'en a pas trop besoin. Et puis, ce qui m'interpelle plus, c'est le milieu de terrain, parce que je trouve qu'il y a énormément de joueurs. On dit que si Aouar part, on fait venir Carvalho, mais on a quand même des gars comme Jeffrey Nadéril, qui n'est pas dans un rôle de numéro 6, mais qui va être, à mon avis, super intéressant cette année. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas trop recruter au milieu. Moi, j'avoue que si on trouvait un ailier gauche pour remplacer Carl Toko et Kambi, je ne serais pas contre. Et puis, voilà, quoi. Mais un central, pour moi, c'est la priorité absolue.
Merci. Surtout, ce qui change en fait par rapport à l'année dernière et l'Olympique Lyonnais, c'est que cette année, Peter Bosz l'a dit en plus en conférence de presse, c'est qu'il a l'effectif dont il a besoin. Il l'a vraiment souligné. Il est satisfait de son effectif. Il joue en 4-3-3, on le sait. Par exemple, Nico Tagliafico va jouer normalement vendredi contre l'AC Ajaccio et il a dit qu'il était prêt, même s'il avait que 2 semaines dans les jambes, parce que à l'Ajax, il jouait en 4-3-3. Il le sait, son effectif est presque au complet. Et par rapport à la saison dernière, ça, ce serait peut-être un point très positif pour l'Olympique Lyonnais cette saison.
Merci beaucoup, Grégory. Je crois que le TGV vient de partir, hein.
Exactement, merci.
Et
bien,
bonne route,
bonne saison.
Et tu peux écouter RMC avec l'appli RMC Live, avec évidemment. L'appli RMC évidemment, même dans le TGV ça marche, hein. Merci Grégory.
Merci bien.
Bon voyage. Merci d'avoir composé le 32-16. Julien, un mot de la préparation, parce que voilà, l'Olympique Lyonnais comme tous les clubs a terminé. C'est quoi le bilan pour l'OL?
Alors, sur le plan comptable, il y a eu 8 matchs pour l'OL au mois de juillet. Il y a eu 4 victoires, 1 nul face à l'Inter. 3 défaites assez conséquentes d'ailleurs, hein, contre le Dynamo Kiev 3-1, contre Anderlecht 3-0 et contre Willem 2 5-0. C'est un peu une préparation en dents de scie. Il y a du bon et du moins bon. Il y a quelques jeunes qui ont été performants au début de la préparation, comme Mohamed El Arouche notamment. Et ceux qu'on peut considérer comme l'équipe première, en fait, ont sombré à quelques reprises, notamment contre Anderlecht le 3-0. Ça reste des matchs de préparation. Donc on va dire que c'est mis en place quand même pour travailler le début de saison et à s'adapter, ce que Peter Bosz veut. Donc c'est justement le moment où il faut tenter des choses. Par contre, vendredi, c'est le retour à la compétition, c'est face à Ajaccio, au Groupama Stadium, et là, faudra peut-être pas se manquer.
À 21h à suivre sur RMC, c'est vrai que la préparation, on peut pas juger le résultat en le voyant comme ça. Hein.
Ah, ça dépend des Olympiques. Hein. Il y a sur certaines préparations, on a vu que dans certains clubs, les matchs de préparation sont aussi importants que des matchs de championnat. Donc ça dépend de quel Olympique tu parles.
Ça dépend de ce que tu montres en fait dans le contenu, parce que là, je pense que tu fais référence à l'Olympique de Marseille face à Milan. C'est une question aussi de contenu, de ce que tu montres. Tu peux peut-être prendre des buts sur des erreurs individuelles. Juger une prépa, même si c'est peut-être le dernier match qui est le plus intéressant, parce que là, les temps de jeu, on se rapproche de ce que le coach veut mettre en place. Sur quel joueur il veut compter.
Exactement. Et surtout, quand tu reprends des joueurs d'expérience, certains joueurs d'expérience savent le moment où il est important de tout mettre, de mettre tout l'investissement. Donc, souvent, sur les matchs de préparation, sur les joueurs d'expérience, on cherche plutôt à retrouver des automatismes, à retrouver des placements. Mais tu ne mets pas toute l'implication dans tes tacles, dans tes accélérations. Et on verra tout autre chose sur le match de championnat.
Toi, tu gérais dans tes matchs de préparation. Après, quand on est ailier, on attend le ballon généralement.
L'ailier, c'est le seul qui court les 40 mètres.
Non. Mais oui, il est obligé, quoi qu'il arrive.
Non, tu les gères parce que t'as évidemment pas envie de te blesser avant de reprendre le début du championnat. Tu veux trouver des automatismes avec tes coéquipiers, donc tu mets de l'investissement. Mais honnêtement, et moi je le dis, c'est idiot de mettre 110% de l'investissement quand tu joues un match de préparation. Il faut savoir quels sont les objectifs importants. Et l'important, c'est de gagner des matchs de championnat.
Mais du coup, c'est quoi, de la concentration? C'est-à-dire, tactiquement, on ne perd pas des ballons inutiles?
Exactement, tu essaies de te concentrer sur la finition, sur les automatismes. Parce qu'en fait, quand les automatismes, on parle souvent d'automatisme, mais l'automatisme entre joueurs, quand le collectif se connaît très très bien, c'est le ballon qui va plus vite. Et quand tu sais que quand tu gagnes quelques secondes, on l'a connu à l'époque du Grand Barça, il ne perdait jamais de temps, tu n'avais pas besoin de courir le 100 mètres à 11 secondes pour être devant tout le monde.
Et c'est aussi important de se comprendre entre coach et entraîneur, Julien, parce que c'est vrai qu'on avait assisté une petite brouille, entre Peter Bosch et Alexandre Lacazette en amical, et évidemment les journalistes ont posé la question.
Ouais, ça a été posé en conférence de presse et Alexandre Lacazette dément totalement son problème avec son coach. C'était peut-être une incompréhension tactique, on va dire, sur un match amical. Il me semble que c'était face à Feyenoord. Il considère que il y a des échanges dans tous les vestiaires et qu'il n'y a aucun désaccord tactique, que tout allait bien. Il a aussi rappelé qu'il avait eu des discussions avant de venir avec Peter Bosz, qu'il a signé quand même en parlant avant avec Peter Bosz, et que leur relation était basée sur le respect et la franchise. Donc, pas de problème selon Lacazette.
Moi, je ne trouve pas qu'il y ait de problème quand, à un moment, le ton il monte un petit peu dans une incompréhension, parce que tu sais, quand tu prépares un match, tu prépares le système et que tu es d'accord sur certaines choses, Lacazette, capitaine, à un moment, tu te tournes, tu dis, coach, là, non, ça ne fonctionne pas. Et tu peux avoir cette impression aujourd'hui, dans la manière dont montrent les choses, qu'à chaque fois qu'il y a... Il y a un vrai échange, et des fois l'échange il peut être...
Surtout dans le vif, à chaud, on est en plein match, il vient de faire une course, il y a le palpitant...
C'est pas un problème, ça fait partie du jeu, ça arrive souvent entre joueurs aussi. Entre joueurs, pour que repartir sur une nouvelle dynamique, en plein match, des fois il faut se bouger, on se bouge. Donc moi je trouve ça plutôt positif, faut pas que ça passe de l'autre côté, ça c'est sûr, mais moi j'ai pas
pour ça qu'avec du public, quand il y a des chambres, on n'entend rien comme ça.
Donc faut gueuler encore plus fort.
Merci beaucoup Julien Bouvenov de la rédaction pour ce point complet sur l'Olympique Lyonnais qui sera avec l'AC Ajaccio, les deux premières équipes, et ils donneront le coup d'envoi de cette saison 2022-2023 de Ligue 1. Allez, on arrête de parler football parce que c'est l'intégral sport, on va parler d'autres sports, en particulier du rugby dans un instant, avec un tour d'horizon de l'actualité. Wilfried Templier nous rejoint, et puis surtout dans 10 minutes la Formule 1 qui est complètement folle. Enfin, c'est surtout la situation d'Alpine, le constructeur français qui pour la saison prochaine pourrait ne pas avoir encore trouvé le deuxième pilote pour accompagner Esteban Ocon. À tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
19h, passé de 21 minutes sur RMC. On est en direct, on est avec Olivier Giraud et on accueille Monsieur Rugby sur RMC qui a déjà repris. C'est normal puisque les joueurs également reprennent, puisque dans un mois ce sera le début du top 14. Bonjour Monsieur Wilfried Templier.
Salut les gars.
Wilfried.
Ça va?
Affûté ou faut encore le faire l'affûtage?
Non, ça va, on s'est maintenu. C'est juste qu'il faut se remettre mentalement là, dans le boulot là.
Oui,
c'est avec plaisir que je vous retrouve et je retrouve tout le monde.
On est heureux de t'accueillir, effectivement, puisque c'est vrai que...
Je vous dis pas que j'étais pas bien en vacances, sans vous, mais...
C'est les lames qui étaient affûtées, les couteaux, plutôt?
Un peu tout, quoi. Faut savoir se faire plaisir.
Bon, c'est quand même une saison. Elle est normale, cette saison de Top 14 2022-2023, mais. Elle ne le sera pas dans un an.
Je dis un an. Mais oui.
Parce qu'avec cette Coupe du Monde de rugby, là au moins il y a un format classique. Parce que c'est vrai qu'avec notre Coupe du Monde de rugby en France, dans un peu plus d'un an, ça va changer beaucoup de choses. Donc là au moins, voilà, on part sur des basses scènes. Juste, il y a eu un petit changement. Un club relégué, un club promu, un petit chassé-croisé dans le Pays Basque.
Ah oui, effectivement, il y a une revanche de l'année d'avant, hein, tout simplement, entre Bayonne et Biarritz. Vous vous souvenez, il y a cela plus d'un an, du barrage fratricide entre Biarritz et Bayonne, terminé au tir au but. Incroyable, incroyable match, incroyable scénario, et de Biarritz qui montait en top 14 et de Bayonne qui traînait sa peine. Eh bien, les Bayonnais se sont, entre guillemets, vengés, puisqu'ils, voilà, champion de Pro D2, ils montent tout simplement en top 14 et bah, leurs voisins sont plus malheureux et descendent en Pro D2 après une saison très difficile. Voilà, c'est d'une année sur l'autre, c'est voilà, les sentiments se croisent et se mêlent, surtout voilà dans ces entre ces deux voisins que bah, je veux dire que tout oppose, mais voilà, c'est la rivalité en rugby au Pays Basque. Et bien voilà, c'est Bayonne qui rejoint le top 14 et Biarritz qui retourne en Pro D2.
Comme quoi en un an Biarritz qui passe d'une joie totale à monter, puis bah un an après, bah le sport ça va vite, hein.
Ah bah, dans le Pays Basque, tu passes un pont et t'as deux univers. Non, par contre, très rapidement, Wilfried, l'ascenseur entre les deux équipes, ça arrive assez souvent, mais on sent que le projet bayonnais il est monté pour ne plus faire cet aller-retour.
Ils essayent effectivement. Alors sportivement, ce sera toujours difficile, hein, de se maintenir pour les promus. Mais c'est vrai qu'il y a toute une structuration au niveau centre d'entraînement, au niveau stade. Le stade Jean Daugé va vraiment être en pleine mutation, hein. C'est vraiment le poumon de la ville et l'ambiance est incroyable. Mais il était un petit peu vieillot ces dernières années. Et vous savez maintenant qu'en hospitalité, c'est le nerf de la guerre au niveau voilà, accueil des gens, que les gens passent le plus de temps possible avant, pendant, après le match. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On va découvrir une nouvelle tribune, il y a plein d'idées au niveau de Bayonne, voilà, pour rejoindre le centre-ville, faire vraiment un lien avec le cœur de la ville, même s'il est très très bien placé pour ceux qui connaissent. Et on essaie de se structurer, même s'il y a eu un changement de manager aussi, hein, puisque Yannick Bru est parti sur ce titre de Pro D2, il a laissé Bayonne en top 14, et c'est Grégory Pata, l'ancien entraîneur des Avants de La Rochelle, qui reprend voilà ce rôle-là. Mais effectivement, il faut un club, alors c'est désolé pour Biarritz cette année, mais il faut un club voilà du Pays Basque en top 14, et Bayonne essaye de se structurer, de développer un projet avec certains modèles en top 14.
Fire and Shiner qui est quand même pas mal, hein. Certains disent XL, voire peut-être XXL pour un promu.
Bah ouais, bah, d'expérience déjà, Maxime Machenot, ancien joueur du Racing 92, et Camille Lopez qui revient au Pays Basque, formé à Mauléon, qui après avoir été voilà à Bordeaux, Perpignan je crois aussi, Camille Lopez à Clermont, bah, qui retourne voilà pour terminer sa carrière, qui retourne au Pays Basque. Donc ça peut être intéressant d'avoir une charnière avec cette expérience.
Ouais, et puis surtout un buteur comme lui, même en fin de carrière, ça reste un buteur.
Effectivement, et c'est très important pour gagner certains matchs, vous le savez bien.
Eh oui.
Eh oui, pour donc l'aviron bayonnais. Bon, on a appris aujourd'hui, Wilfried, le Racing 92, ça c'est pas une bonne nouvelle, ils perdent déjà un joueur, les hommes de Laurent Travers, alors qu'il n'est censé arriver que cet automne.
Pas arrivé, déjà blessé. C'est Regan Grace. Alors peut-être que voilà, le grand public va apprendre à le découvrir, mais un peu plus tard, on va vous l'expliquer. C'est un joueur à 13 de Saint-Hélène. C'est un club en Angleterre qui rafle tout, ce qu'on appelle la Super League, hein. C'est le championnat auquel participent les Dragons catalans et le Toulouse Olympique 13 cette année, avec des fortunes diverses puisque Toulouse est dernier et les Catalans sont deuxième. Mais Saint-Hélène, c'est les champions, trois fois champions sur les quatre dernières années. Et dans cette équipe, il y a Regan Grace. C'est une machine à marquer. Depuis des années, jamais moins de 10 essais, hein, si on fait le décompte sur ces dernières saisons, 12 essais, 10 essais, 20 essais, 15 essais. Il était un peu embêté cette saison, il était un peu blessé, biceps, ischio, mais là, c'est la grosse tuile pour lui. Déjà parce qu'il quitte finalement son club sans dire au revoir et sur cette rupture du tendon d'Achille. Et puis parce que, alors Olivier peut-être nous en parler, je sais pas si t'as vécu ça une fois, une rupture du tendon d'Achille, mais tu connais.
Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors parce qu'on l'annonce, voilà, début d'année 2023, moi, je pensais un minimum de 6 mois quand même, alors, pour une rupture du tendon d'Achille.
Alors, c'est quoi?
Tu vas pouvoir nous en parler, du coup.
C'est une des blessures les plus impressionnantes qui existent, parce que si t'es à côté, tu entends comme un élastique qui pète, en fait. Et en général, le joueur, il regarde derrière, tu penses que quelqu'un t'a mis un coup de pied, et puis tu t'écroules après. Mais par contre, contrairement à un ligament croisé, c'est une des blessures dont tu te remets le mieux.
D'accord. Donc quoi, si on dit janvier 2023, là, ça ferait 5 mois.
Ouais,
si,
ouais, ouais.
Sur Poitou, ouais, ça peut être...
Ouais, 5 mois, ça peut le faire, ouais.
Écoute, le Racing va l'attendre parce que c'est quand même le remplaçant tout désigné de Teddy Thomas, hein, l'ailier international qui est parti à La Rochelle de son côté. Donc il y a quelques recours, on va parler du Racing, mais Regan Grace, voilà, c'est quelqu'un de un peu dans le style de Cheslin Kolbe, hein, qui est Toulouse, Toulon, vous voyez tous Cheslin Kolbe, champion du monde avec l'Afrique du Sud, c'est un peu ça.
Un petit mètre 78, c'est vrai, hein.
Ouais, très rapide, très athlétique, puis un finisseur, surtout un finisseur. Donc il devait arriver, oui, plutôt en octobre-novembre. Voilà, il faudra un peu pousser. C'est un peu dur de se dire ça pour le Racing. Quand vous avez une recrue, voilà, qui est déjà blessée longuement.
Donc il va pouvoir garder ses qualités de vitesse malgré ce coup dur, avec évidemment beaucoup de travail.
Je t'assure que oui. Je t'assure que oui. Il y a eu des joueurs en équipe de France assez connus.
Ça va rassurer les supporters du Racing,
oui, qui avaient comme prédominant les qualités physiques, surtout les qualités de détente. Et je parle de Kelvin Gyökeres, et juste après il était champion du monde et il a toujours sauté aussi haut.
Ah, oui.
Ça n'a rien changé à ses qualités physiques.
Un jump incroyable.
Mais le tendon d'Achille, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant quand ça pète, parce que t'as le mollet qui remonte.
C'est peut-être plus courant chez l'handballeur, Olivier, non?
Ouais.
Les basketteurs aussi. On se souvient de Kobe Bryant qui s'était relevé.
En fait, ça devient récurrent dans tous les sports où maintenant tu utilises énormément les appuis. Ouais. Énormément les appuis. C'est une blessure qui arrive de plus en plus souvent. Ouais.
Du côté du voisin Wilfried, ça c'est une information que l'on a apprise hier. Le Stade Français se sépare de sa recrue phare de l'été dernier, le All Black, le centre All Black, Lomapé.
Effectivement, de phare à flop, le flop de la saison dernière, tout simplement. Hein. On l'appelait la boule de démolition, hein. Lomapé, qui a pas démoli grand-chose. Alors, Lomapé, 15 sélections, un taulier du super rugby, hein, des provinces nouvelles-néo-zélandaises, mais son fantôme en top 14. Il a joué 22 matchs, 2 essais seulement, et il a jamais réussi à faire oublier Gaël Ficou, qui était justement parti au Racing, lui. Alors attention, parce que les Néo-Zélandais, quand ils arrivent, il y a un peu de bémol à porter à cela, hein. C'est pas facile pour un Néo-Zélandais d'arriver à Paris. La saison du Stade Français l'a pas aidé, hein. 11e du top 14 la saison dernière, à 20 points de la 6e place, hein. Le Stade Français, c'est 15 défaites en 26 journées. Et ça n'a pas marché avec Lomapé. Donc le club et le joueur ont préféré mettre fin à ce contrat. Le Stade Français a fait un recrutement avait besoin de gifs aussi. Mais bon, le Stade Français perd Lomapé, qui aurait peut-être été mieux cette année. Bon, on n'a pas voulu pousser l'expérience, mais le Stade Français perd aussi YCA, qui part à Toulon, donc au milieu de terrain. Voilà, il faudra suivre ça. Mais ça arrive. Des fois, la greffe ne prend pas, et sans trop tirer. On va pas tirer sur une ambulance, hein, je vous sentais sourire, mais c'est vrai que des fois il y a des Néo-Zélandais qui n'arrivent pas à s'adapter à la France.
Non, mais c'est après, et puis surtout en un an, voilà, on se souvient, moi j'ai toujours l'exemple, on me cite, j'étais un petit peu jeune, mais c'était en football de Rai qui, après sa première saison au PSG, n'avait pas forcément donné tout ça, et quand on connaît la suite,
c'est
toujours du temps.
C'est clair.
Oui.
Et pour terminer, Wilfried, là aussi on fait la grimace, décidément il y a des grosses blessures, parce qu'en plus c'est pour plusieurs mois. C'est du côté de Lou, des Lyonnais, qui ont déjà vu Pierre Mignoni partir du côté de Toulon, le manager. Là c'est le pilier des Bambamba qui s'est gravement blessé, tout comme l'ouvreur Sopo Aga, néo-zélandais.
J'ai l'impression d'être un médecin dans un hôpital, là, de vous faire tout.
On a fait beaucoup de médecine aujourd'hui avec Olivier. Hein. Docteur Giraud. Il y a Docteur Courbis, mais aussi Docteur Giraud.
Ouais, je vous conseille pas de venir me voir en consultation.
Coup dur. Pour l'apéro, ce sera bien. Coup dur pour Demba Bamba. On connaît Demba Bamba, hein, 24 ans, 25 sélections, les deux dernières au Japon. Hein, il y a peu de temps avec l'équipe de France. Coup dur pour lui, mais aussi pour le 15 de France. Donc, parce que Demba Bamba avec Antonio, qui est quand même titulaire, et Mohamed Awas.
Ah, voilà, c'est potentiellement un de nos deux piliers.
Effectivement,
droit,
pilier droit. Poste très important en rugby, et on est à 13, on l'a dit, on a 13 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde en France. Là, on va commencer à mettre le sablier à l'envers. Voilà, surtout pour Lyon aussi, Bamba est titulaire indiscutable aussi, hein. Puis pour le nouveau manager Xavier Garbajosa, donc il est blessé à l'épaule. Et puis tu l'as dit, Lima Sopo Aga aussi, Lima Sopo Aga opéré du genou pour une tendinite rotulienne. 4 mois d'absence pour lui. Voilà, c'est vrai que Xavier Garbajosa arrive, est le nouveau manager pour Lyon, et puis il a deux tauliers, même s'il y a un joker, hein, pour Sopo Aga, et on en cherche un pour Bamba. Le joker pour Sopo Aga, c'est Fletcher Smith, c'est un néo-zélandais aussi, mais bon, on pense que c'est un tour en dessous quand même, Sopo Aga, et c'est pas évident pour le manager Garbajosa, qui arrive et qui a deux titulaires potentiels, même s'il y a Léo Berdeau en numéro 10, meilleur réalisateur du top 14 la saison dernière au Loup. Et bien c'est deux coups difficiles dans l'été pour ça et pour l'équipe de France aussi, puisque il ne sera pas de la tournée d'automne. Mais si on rappelle que tournée d'automne, les champions du monde sud-africains viennent en France, viennent jouer à Marseille. Ce sera
ça va cogner, ça va taper. Hein.
C'est les champions du monde, c'est les seuls
merci
qu'on n'a pas joué et donc pas battu.
Wilfried. Eh oui, c'est important de se préparer et quoi de mieux que les champions du monde pour devenir champion du monde, de les affronter. Merci Monsieur Wilfried Templier.
Ouais, sur les petites ordonnances, des petits bilans médicaux comme ça, vous m'appelez.
Voilà, sur Doctolib, vous tapez Wilfried Templier, vous pouvez réserver votre créneau. Merci bonsoir, Wilfried.
Salut Wilfried.
Allez, on revient, on va parler Formule 1. Là aussi, il y a besoin d'un docteur pour Alpine, le constructeur français, parce que la Formule 1 est en mode pause, mais uniquement la compétition. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Alpine a perdu Fernando Alonso la saison prochaine.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
19h35 sur RMC, toujours avec Olivier Giraud, et on accueille pour parler Formule 1 Hamza Rahmani de la rédaction d'RMC Sport. Salut Hamza.
Bonsoir messieurs.
La Formule 1 est en mode pause pour 4 semaines, enfin pause uniquement sur la compétition, avec une reprise fin août au Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique, parce que cette période du mois d'août qui est appelée la Silly Season, un terme britannique pour évoquer la période où les tractations vont bon train en coulisses et on assiste toujours à de grandes surprises. Eh bien Hamza, c'est chez Alpine que la situation est devenue totalement ubuesque.
Ouais, effectivement, je pense qu'on a tous entendu et tous suivi cette affaire. Le départ d'abord de Fernando Alonso qui a été officialisé lundi matin. Alpine n'était même pas au courant du départ de Fernando Alonso. On le rappelle, il y avait un Grand Prix ce week-end en Hongrie. Et du côté d'Alpine, dimanche soir, on était encore persuadé que Fernando Alonso allait prolonger son contrat pour conserver ce volant Alpine pour la saison de 2023. C'est ce qu'indique Otmar Safnauer hier matin en conférence de presse. Surprise, donc effectivement Fernando Alonso s'engage, c'est chez Aston Martin, et là on se pose la question: qui sera le coéquipier d'Esteban Ocon pour 2023? Naturellement on pense à la pépite, l'enfant d'Alpine, de l'Alpine Academy, Oscar Piastri, champion du monde, enfin champion de Formule 3 dès sa première année, champion de Formule 2 dès sa première année, et qui aujourd'hui pilote réserve. Sauf que Oscar Piastri ne l'a pas forcément entendu de cette oreille. On attendait donc l'officialisation d'Alpine qui est arrivée hier en fin d'après-midi. Sauf que dans ce communiqué d'Alpine, pas de déclaration d'Oscar Piastri. Il y a quelque chose qui va
pas. Ils envoient un tweet: notre pilote sera Oscar Piastri.
Eh oui, communiqué de presse.
Puisque là, voilà, Alonso s'en va, ils l'apprennent un peu, on va revenir sur Alonso. Et puis, voilà, quelques heures après, on dit ça sera Oscar Piastri. Bon, jusque-là, l'histoire, même si c'est un petit peu surprenant, sauf qu'on s'arrête pas là.
On s'arrête pas là, parce que quelques heures plus tard, Oscar Piastri, l'Australien, sur Twitter, indique très clairement qu'il ne pilotera pas pour Alpine en 2023, qu'il n'était pas au courant du communiqué de presse, qu'il n'a pas donné d'autorisation à Alpine pour sortir cette information lors du communiqué de presse. Et du coup, on se retrouve dans une situation où Alpine, il y a 3 jours, avait un choix de riche, avec Esteban Ocon, Fernando Alonso et Oscar Piastri, 3 pilotes pour 2 places. Et aujourd'hui, ils n'ont plus qu'un pilote sur Esteban Ocon et ils sont à la recherche leur pilote pour la saison prochaine.
C'est du jamais vu ça. Non,
c'est Artus, non, c'est Molière, c'est une pièce de Molière.
Des trucs incroyables, là où tu penses qu'il y a des baquets achetés, des pilotes qui payent, qui vont chercher leur sponsor pour pouvoir conduire. Et dans une des écuries qui normalement n'a pas à avoir ce type de problème, on se retrouve avec un baquet libre. C'est juste fantastique. On discutait tout à l'heure quand même en antenne de la temporalité de toutes ces annonces.
Oui.
Et on sent que derrière ça, Alpine s'est fait un petit peu avoir.
Revenons sur Fernando Alonso, parce que ce week-end, des déclarations de Otmar Safnauer, se dire oui, on discute, on est plutôt confiant. Vous savez, oui, il y a des tractations, mais c'est comme ça, c'est la Formule 1. Mais globalement, on s'attendait à se mettre d'accord avec Fernando Alonso, en tout cas, à pas annoncer le lendemain que Alonso annonce son départ.
Le départ de Fernando Alonso, déjà, c'est un premier coup de tonnerre. On ne s'y attendait pas forcément, encore moins pour aller chez Aston Martin. Aujourd'hui, Alpine, c'est la 4e force du championnat du monde de Formule 1. Aston Martin, au classement des constructeurs, c'est l'avant-dernière équipe du championnat. Donc déjà, il y a une régression sportive si on constate les performances aujourd'hui des monoplaces. Et effectivement, il y a cette première grosse surprise. Là où effectivement les relations Alpine-Fernando Alonso ne semblent pas forcément concorder, c'est que Fernando Alonso réclamait un contrat moyen, voire long terme, 2, 3, 4 ans, pourquoi pas, multi-year, comme ils disent.
Sans lié à de la performance aussi.
Sans être lié à la performance, alors qu'Alpine ne proposait à Fernando Alonso qu'une saison plus une année en option. Et c'est ce que disait hier Otmar Safnauer en conférence de presse sur Zoom. Il disait, Fernando Alonso, avec tout le respect qu'il a pour lui, il a 41 ans, Et c'est un âge.
C'est pas une question de niveau, place d'envie presque.
On peut plus se permettre de prendre de risques sur ce niveau. Et effectivement, le départ de Fernando Alonso, c'est un premier coup de tonnerre. Et Alpine aujourd'hui se retrouve en grande difficulté puisque Piastri ne veut pas piloter pour Alpine et on ne sait pas qui sera le pilote la saison prochaine.
Tu comprends déjà la position de Olivier, oui, la position sur Alonso de dire, on ne va pas non plus te donner un contrat de plusieurs années parce qu'on ne sait pas si tu auras toujours la même motivation. On le voit avec Sébastien Vettel. Bon, là, il était en fin de contrat, mais voilà, on sent qu'il n'a plus la flamme et on peut le comprendre aussi.
Hein. Il n'y avait pas la flamme dans sa voiture non plus. Hein.
Non, le moteur s'enflamme pas trop.
Ouais. Je veux dire, il y a l'auto qui est importante aussi, mais c'est surtout le. Il ne faut pas oublier que Fernando Alonso, il a un sacré caractère. Hein. Et que ça reste un pilote multiple champion du monde. Et donc, quand tu négocies, qui est le manager chez Alpine, dans la négociation, à mon avis, ça ne s'est pas bien passé. Et que tu te mets Fernando Alonso, un coureur de cette expérience-là, qui a aussi un sacré réseau dans le monde automobile, tu peux aussi te poser certaines problématiques, certains obstacles dans ton recrutement. Et que là, ce qui va être très intéressant, dans un mois, parce qu'il y a le classement constructeur qui est important. C'est aujourd'hui, ils ont Alonso qui va partir, ça se passe pas
chez McLaren
super bien. Donc comment il va gérer cette fin de saison et Alpine va gérer cette fin de saison avec lui. Et puis ce jeune pilote qui lui non plus n'est plus dans cette perspective de courir pour eux, donc ils vont se retrouver avec un seul coureur.
Qu'est-ce qui veut dire un Fernando Alonso, juste à Hamza, donc là Alpine est quatrième au classement constructeur, McLaren cinquième, donc Alonso qui est quatrième avec Alpine va partir chez le cinquième, et ça veut dire
chez Aston Martin.
Parce qu'on annonce Piastri chez McLaren. Alonso va être écarté de toutes les réunions techniques pour la voiture de 2023.
Ça, c'est fort probable, mais on le voit absolument partout dès qu'il y a un transfert qui est officialisé dans le monde de la Formule 1. J'aimerais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure avec notamment cette temporalité. Il faut savoir que Fernando Alonso, il est ami avec un certain Mark Webber. Mark Webber, ancien pilote de Formule 1, qui est aujourd'hui le manager d'Oscar Piastri. Selon les médias et certains journalistes étrangers, il se peut que dans le contrat qui lie Oscar Piastri et Alpine, jusqu'au 31 juillet, il y avait une clause de priorité pour Alpine. Ce qui veut dire que jusqu'au 31 juillet, si Alpine trouvait un volant ailleurs pour Oscar Piastri ou officialisait Oscar Piastri chez Alpine pour 2023, Oscar Piastri n'a pas son mot à dire et devait choisir finalement et accepter la décision d'Alpine. Sauf que à partir du 31 juillet, donc à partir du 1er août, officiellement, si on en croit les informations de ces médias étrangers, la clause n'existe plus. Donc Oscar Piastri peut choisir la destination qui lui chante. On pourrait peut-être penser que Fernando Alonso et son ami Mark Webber, manager d'Oscar Piastri, on peut être essayer de la mettre à l'envers à Alpine, sachant que l'on sait que les relations entre Fernando Alonso et Otmar Szafnauer, qui est arrivé l'hiver dernier chez Alpine, ne sont pas forcément les relations les plus chaleureuses.
Vivement la série Netflix, Olivier. Hein.
Non, mais moi, j'y ai pensé tout à l'heure. Elle sera excellente, celle-là. Tu sais, un truc, ça fait penser à une expression du poker, c'est que le truc, c'est quand t'as une table, tu dois chercher qui est le pigeon. Si tu le trouves pas, eh ben, c'est toi.
Le
poisson, là, dans l'histoire, eh ben, c'est bien Alpine.
Et là, on se retrouve dans une situation où Alpine, de toute façon, et nous l'a indiqué ce matin, ne communiquera plus. Ils vont laisser tranquillement faire. On rappelle qu'en Formule 1, il y a une sorte de bureau des contrats qui valide, qui vérifie les contrats. Donc Alpine, on imagine, s'ils ont sorti ce communiqué, c'est qu'ils imaginent quand même être dans leur droit et avoir la possibilité matérielle d'officialiser Piastri. Si Piastri, derrière, parce que Piastri, on va quand même rappeler, c'est un pilote qui n'a jamais piloté en Formule 1. Donc quand un pilote qui n'a jamais piloté en Formule 1 refuse le baquet chez Alpine, qui est aujourd'hui la quatrième meilleure équipe du championnat du monde, c'est qu'il faut, enfin je l'espère pour lui, avoir au moins la certitude d'avoir un baquet en 2023, parce que sinon c'est du suicide.
Oui, c'est du suicide, et puis surtout il y a une certaine hiérarchie dans les paddocks, et que quand tu es un jeune coureur et que tu n'as pas encore piloté en Formule 1, on se souvient des débuts de Verstappen qui est aussi doué qui est
à 16 ans
au même âge
que
Piastri, son début en Formule 1 était compliqué et il n'a pas été reçu de la plus belle des manières par tous les coureurs. Là Piastri, ben c'est bon, on connaît son nom, et je pense que beaucoup de pilotes connaissent son nom aussi, et parce que les les baquets sont chers.
Et puis il y a un point quand même important à signaler, c'est qu'Oscar Piastri, je le disais tout à l'heure, c'est un enfant de l'Alpine Academy, ce qui veut dire qu'Alpine a investi sur Oscar Piastri, lui a payé ses saisons en écurie de jeunes, et aujourd'hui, au moment où Alpine doit récolter finalement les fruits du travail avec Oscar Piastri, qui on le répète, est l'un des plus grands talents aujourd'hui, enfin qui n'est pas pilote de Formule 1, champion du monde, champion de F3 en tant que rookie, champion de F2 en tant que rookie, aujourd'hui il n'est pas en Formule 1 parce qu'il n'avait pas la place, mais c'est vraiment l'une des grosses promesses de l'avenir du monde de la Formule 1. Donc effectivement, du côté d'Alpine, on peut clairement se sentir floué.
Donc en l'espace de 24 heures, Alpine a totalement fait éclipser Ferrari, qui était la risée du monde de la F1 après ce week-end. C'est quand même sacré prouesse. On ne parle que de ça.
En termes de communication, c'est assez étrange. Qu'Alpine officialise Piastri, on voit tout de suite qu'il n'y a pas la déclaration de Piastri, donc on se doute déjà qu'il y a un problème. Mais ça veut dire aussi qu'Alpine n'a pas communiqué avec Oscar Piastri ou avec Mark Webber pour sortir. Ça veut dire que dès le début, il y a quelque chose qui n'allait pas forcément aussi bien de côté de Piastri que du côté d'Alpine.
Merci beaucoup Hamza pour ce point complet et assez rocambolesque.
Bien précis.
Et un point, on ne l'a pas signalé, Oscar Piastri serait en négociation avec McLaren pour la saison prochaine, ce qui voudrait dire qu'il prendrait la place de Daniel Ricciardo, ancien pilote Renault, Ricciardo qui du coup se retrouverait sans volant, qui semblerait être le prétendant naturel pour revenir chez Renault et désormais Alpine.
Merci beaucoup Hamza, on va suivre ça évidemment, la Formule 1
le 28
à suivre à Spa-Francorchamps évidemment. Merci Hamza, et nous on revient avec le Mercato Show pour ce dernier quart d'heure dans l'Intégral Sport avec Olivier Giraud.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon
avec Olivier Giraud pour les 10 dernières minutes de cet Intégral Sport. À 20h, vous retrouverez l'after autour de Timothée Mémon pour revenir sur toute l'actualité chaude, brûlante du football. Et nous, on va parler football avec les dernières tractations. Comme ça, vous aurez toutes les informations. C'est l'heure du Mercato Show.
RMC,
le Mercato Show.
Parce que ça bouge, et on accueille Pierre Thévenet de la rédaction. Salut Pierre.
Salut Arnaud, salut à tous. Salut
avec Pierre. Cette bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, enfin, alléluia même, accord trouvé entre Lille et le PSG pour Renato Sanchez.
Oui, Paris voulait un prêt avec option d'achat, le LOSC un transfert sec, et c'est finalement les Lillois qui ont obtenu gain de cause. Un accord de 15 millions d'euros a été trouvé hier soir pour acheter les services de l'international portugais qui va venir renforcer le milieu de terrain du PSG. À noter que le PSG ne semble pas vouloir en rester là. Selon Foot Mercato, Luis Campos veut tenter un énorme coup et s'offrir les services de Bernardo Silva. C'est lui qui l'avait fait venir à Monaco déjà en 2014. Le Portugais n'est pas contre un départ, mais les négociations avec son club de Manchester ne s'ouvriront pas à moins de 80 millions d'euros. Le PSG va devoir vendre avant d'acheter. Et côté départ, c'est quasiment réglé pour Jorginho Wijnaldum, qui va rejoindre la Roma sous forme de prêt. Le journaliste Fabrizio Romano affirme que la Roma va verser 5 millions d'euros au PSG pour payer une partie du salaire du Néerlandais. Abdou Diallo devrait lui aussi trouver une porte de sortie. Le Milan a ses champions d'Italie auraient fait de l'international sénégalais une priorité dans le secteur défensif. Aucune offre n'a encore été pour le moment formulée.
Et ce sera le sujet d'ouverture de l'after à 20h. Le 32-16 est ouvert, si vous voulez réagir, supporters parisiens, sur ces dernières informations Mercato. Olivier, ils ont besoin de Renato Sanchez, le PSG ?
Ouais. Oui, parce que on parlait des saisons longues, on parlait de tout à l'heure de selon le club que tu es, l'OL aujourd'hui par exemple, ils ont déjà il a son effectif. Pour un effectif en Ligue des Champions, il faut tenir la route, il faut mettre de la concurrence aujourd'hui et on est dans une autre dynamique au PSG aujourd'hui. Il va falloir gagner sa place dans cette équipe. On voit qu'elle tourne déjà très très bien. Renato Sanchez, c'est quand même et Bernardo Silva, c'est là on touche la pointure, ce qui a manqué à certains moments un petit peu dans l'entrejeu parisien de consistance.
Non, on va voir pour Bernardo Silva si ça se confirme, mais c'est vrai que là, Renato Sanchez, visite médicale qui va être passée dans les prochaines heures, si ce n'est les prochains jours. Du côté de Lille, donc, il y a ce départ de Renato Sanchez, mais il y a également un autre départ qui va ramener de l'argent dans les caisses du LOSC, celui d'Amadou Onana.
Oui, Lille vend bien, on le sait. Cette saison, Sven Botman est déjà parti pour 37 millions à Newcastle. On se rappelle les transferts de Soumaré à Leicester, d'Osimhen à Naples ou de Leao au Milan. Cette fois, c'est West Ham qui pourrait craquer sa tirelire pour recruter Amadou Onana. Selon Sky Sport, les Hammers ont fait une offre de 40 millions d'euros pour le milieu de terrain qui compte une sélection avec la Belgique. Ce transfert, ce serait la troisième plus grosse vente de l'histoire du LOSC et le deuxième plus gros achat du club londonien.
Et ils vont du coup chercher des renforts défensifs, hein, parce que si Botman est parti, Onana, qui est aussi un joueur à plutôt vocation défensive.
Oui, ils sont allés chercher du côté de Toulouse. Bafodé Diakité devrait s'engager avec le LOSC pour 2,5 à 3 millions d'euros. C'est un joueur très polyvalent de 21 ans qui peut jouer à la fois en défense centrale ou comme latéral.
Bon, ça vend bien au LOSC, hein, quand même, depuis plusieurs années, Olivier.
Bah, ils ont trouvé un petit peu leur vitesse de croisière, vendre, essayer de faire une bonne saison, voire être champion de France, jouer la Ligue des Champions en ayant déjà vendu. On ne joue pas pour jouer la Ligue des Champions chaque année comme certains clubs. C'est-à-dire qu'il y a ce mix entre vendre et bien jouer.
Oui, il n'y a pas l'obligation à chaque fois, même si Lille a envie d'être européen chaque saison, mais il n'y a pas obligation d'être dans le top 2. Nice, enfin, est très actif sur le mercato juste avant la reprise, Pierre.
Oui, eux aussi, sur le secteur défensif, ils viennent d'officialiser, ça y est, l'arrivée jusqu'en 2025 du gardien de but Kasper Schmeichel en provenance de Leicester. Plus tôt ce matin, ils avaient déjà officialisé le transfert de Mattia Vitti, jeune défenseur italien qui évoluait à Empoli la saison dernière. Prix de l'opération, 15 millions d'euros bonus compris pour ce joueur de 20 ans qui a disputé 20 matchs en Serie A l'an passé.
Ah, ça bouge enfin pour l'OGC Nice. Jordan Veretout, on en parlait tout à l'heure avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai que le milieu de terrain de la Roma est tout proche de rejoindre l'OM. Hein.
Oui, il devrait signer à l'OM d'ici la fin de la semaine. Foot Mercato parle d'un prêt, l'équipe d'un transfert avoisinant les 10 millions d'euros environ. En tout cas, les positions se rapprochent entre le club phocéen et l'international français de 29 ans. Marseille qui cherche toujours à vendre certains de ses avant-centres. Et le premier à partir pourrait être Cédric Bakambu. L'attaquant est dans le viseur du Celta Vigo, une information qui a été confirmée par la Provence.
On en a parlé, mais sportivement, Veretout, c'est pas mal hein, pour l'OM. Un milieu avec Guendouzi, Veretout, beaucoup d'expérience.
Beaucoup d'expérience, comme tu dis.
Beaucoup un bon joueur, Jordan Veretout, se souvient à Nantes aussi, donc 29 ans seulement, il a encore de belles années à faire. Arsenal prête un de ses jeunes attaquants en Ligue 1 au Stade de Reims.
Oui, Reims qui cherchait un remplaçant à Hugo Ekitike depuis son départ au PSG. C'est chose faite, Folarin Balogun, joueur anglo-américain de 21 ans, rejoint le club en prêt, sans option d'achat. Il était déjà prêté depuis janvier dernier à Middlesbrough, où il avait inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives.
En Ligue 2, il y a eu le passage de Bordeaux devant la DNCG et on en sait un petit peu plus. Voilà, masse salariale encadrée. Bordeaux qui doit absolument vendre avant de se renforcer.
Oui, tu l'as dit, la masse salariale des Girondins est encadrée par la DNCG qui contraint le club à vendre à hauteur de 3 millions d'euros avant de pouvoir ne serait-ce qu'homologuer ses deux premières recrues, Vital Nsimba et Johan Barbet. Selon les informations de Nicolas Paolorsi, notre correspondant à Bordeaux, plusieurs joueurs sont invités à trouver un nouveau club. Rémi Houdin, Mecher et Mbaye Niang s'entraînent déjà à l'écart du groupe. Wang, Albert Ellis ou encore Onana, ce sont les joueurs qui ont la plus forte valeur marchande du club. Ils sont également sur le départ.
La remontée s'annonce quand même compliquée. Hein. C'est ce qu'on
en discutait la dernière fois, c'est-à-dire que tu peux avoir des joueurs avec une valeur marchande certaine, mais c'est le truc du marché, quoi. Lorsque tu es en difficulté,
la valeur, c'est l'acheteur en fait qui la fixe.
Exactement, et encore plus quand tu es en difficulté, on sait que tu as besoin d'argent.
Pour terminer, situation toujours tendue entre l'entraîneur de Manchester United, Ten Hag, et Cristiano Ronaldo à Manchester.
Dans un entretien accordé à un média néerlandais, le coach des Red Devils a jugé inacceptable l'attitude de son attaquant qui a quitté le stade après avoir été remplacé dimanche dernier face au Rayo Vallecano. Le Portugais, qui selon AS cherche toujours une porte de sortie vers un top club européen, ne devrait pas démarrer en tant que titulaire pour la première journée de Premier League face à Brighton dimanche.
Bien malin, celui qui saura l'avenir de Cristiano Ronaldo, hein, qui peut rester hein, là où il est, hein, à Manchester. Hein.
Ouais, mais on va s'y intéresser parce qu'il peut toujours avoir une petite surprise hein, avec Cristiano, toujours.
Eux aussi vont peut-être s'y intéresser parce qu'évidemment c'est un des sujets brûlants de cette fin de semaine, de cette fin de mercato, l'avenir de Cristiano Ronaldo. Mais je crois savoir qu'il y a le mercato parisien pour commencer. L'after qui débarque dans 4 minutes. Salut Timothée Mémon.
Salut Arnaud, salut à tous. Tu as raison, tu crois pas seulement savoir, tu sais. Et on va parler du mercato parisien bien évidemment. On va également parler du mercato niçois. Il y aura un avis tranché de Jonathan Macardy sur l'OM. Et puis on sera, tiens, pour tous ceux qui ont le téléphone qui chauffe, on sera aussi tout à l'heure à 21h30 avec un des fondateurs de Mon Petit Gazon.
Oh, pour avoir les petites astuces, les mercato.
Je sais que tu vas écouter.
Tu as fait ton mercato, Timothée ?
J'ai fait mon mercato sagement. Je suis dans la ligue de Gilbert Bribois, donc
le patron c'est carré.
Le patron c'est carré, voilà. Donc j'ai fait mon mercato, mais je vais peut-être pouvoir l'ajuster avec le fondateur d'MPG qui sera avec nous.
Merci Timothée, tu arrives tout de suite avec l'after à partir de 20h. Nous l'Intégral Sport, Olivier, on revient demain à partir de 18h pour 2 heures d'actualité. Très bonne soirée sur RMC.